Bonjour.
À Utopia 56, Rennes, vous vous chargez d'accueillir les personnes exilées, vous militez pour leur apporter des soins, de la nourriture, des vêtements, un toit, des informations sur leurs droits et également un soutien au niveau de leurs démarches administratives. Ça fait donc une semaine que le confinement de la population sur le territoire français a été déclaré. Comment est-ce que la nouvelle a été accueillie dans votre association? Et surtout, comment est-ce que ça s'est passé cette semaine pour vous et pour les personnes exilées auxquelles vous venez en aide?
Alors pour nous, cette période de confinement, c'est une difficulté supplémentaire parce que bien entendu, les personnes qu'on accompagne n'ont pas la possibilité d'être confinées dans les lieux où elles habitent, voilà, que ce soit en squat ou dans les rues. Donc ça a été du travail en plus, en sachant que la plus grande partie des associations ont dû suspendre leur activité pour cause de manque de bénévoles, parce que les bénévoles étaient un peu trop à risque. Je pense surtout aux associations qui ont beaucoup de retraités parmi leurs bénévoles. Au-delà de ça, nous-mêmes, on a dû restreindre nos activités et on a dû se limiter à une équipe de 10 bénévoles référents. On a transmis la liste des bénévoles qui restaient sur le terrain à la préfecture pour montrer qu'on serait toujours là et puis peut-être éviter les amendes. Et voilà, et on commence à s'organiser. Donc là, ça fait une semaine, on est un peu fatigué, mais on commence à reprendre la main tout doucement.
Est-ce que justement, vous risquez en tant que bénévole de recevoir une amende à chaque fois que vous venez en aide justement à ces personnes et que vous sortez de chez vous?
Alors pour l'instant, à Rennes, on n'a pas encore eu de problème. Cela dit, je sais que l'antenne Utopia de Calais, par exemple, a déjà eu des amendes.
Les gros regroupements de personnes sont interdits, mais les personnes vivant par exemple dans les squats comme celui des veillettes n'ont pas d'autre choix que de vivre les unes sur les autres. Est-ce que pour le cas des veillettes, par exemple, c'est réellement possible de respecter toutes les consignes d'hygiène?
Alors, je vais parler pour les deux squats, du coup, parce que c'est un peu la même chose. C'est des lieux d'hébergement collectif où les conditions de vie sur place ne sont pas adéquates à un confinement total. Sur l'un des squats, il n'y a pas d'électricité. Sur les deux, il n'y a pas d'eau chaude. Sur le squat des veillettes, par exemple, c'est un peu plus de 130 personnes à 150 personnes qui sont hébergés sur place et aucun dispositif pour l'instant médical n'a été mis en place autour des veillettes. Donc c'est-à-dire que les gens n'ont plus non plus accès aux soins médicaux. Le gros souci, c'est qu'avec avec cette crise sanitaire, les hôpitaux habituels qui les accueillaient sont surchargés. De même, le personnel soignant essaye de se protéger et donc limite un maximum les interventions, que ce soit en extérieur ou limite un maximum les rendez-vous qui ne sont pas urgents. Donc on se retrouve avec des gens qui habitent donc dans des tentes et dans des entrepôts, pour certains qui ont de grosses pathologies de santé. Par là, j'entends des cancers, des femmes enceintes et plein d'autres choses. Donc oui, on a un peu peur que ce virus se propage sur place. Pour ce qui est de la mise à l'abri de ces gens-là, nous, on a demandé en interasso à ce que les personnes en squat et les personnes qui restent encore à la rue soient mises à l'abri par l'État dans le cadre d'un plan de mise à l'abri spécifique pour crise sanitaire. Aujourd'hui, on n'a aucune réponse de la préfecture qui nous dit qui dit publiquement d'ailleurs que tout est sous contrôle. Donc voilà, on en est là aujourd'hui.
Et ça correspond à peu près à combien de personnes ces squats-là?
Alors, sur le squat des veillettes, donc, c'est ce que je disais, il y a entre 130 à 170 personnes, je crois. Et sur le squat du Bois Perrin, il y a 62 personnes.
Et au niveau du matériel, est-ce que vous avez suffisamment de gants, de gel hydroalcoolique ou de masques?
Non, bah non, c'est pareil, là, on se débrouille un peu par nos propres moyens. On a de la chance ici à Rennes que la solidarité fonctionne. On a pu faire appel à de professionnels qui utilisent d'habitude des gants et des masques et qui nous les ont fournis vu qu'eux sont fermés. Pareil, on a des couturières qui se sont mis à nous faire des masques en tissu. Donc voilà, c'est tout un travail de protocole après derrière à mettre en place pour éviter les risques et respecter les gestes barrières. Mais en tout cas, rien ne nous a été fourni ni par la mairie ni par l'État. Et on nous a même demandé de nous débrouiller un peu tout seul, quoi.
Alors justement, le collectif Interorganisation de soutien aux personnes exilées de Rennes a adressé la semaine dernière une lettre ouverte à la municipalité de Rennes pour protester contre le fait que si des hôtels de ville ont été libérés pour accueillir 150 personnes sans abri, la municipalité n'a pas fourni d'aide logistique pour l'emménagement de ces personnes. et s'est appuyé pour cela sur les militants des associations comme s'ils étaient, je cite, des prestataires de services, donc sans les concerter par avance, en leur donnant des adresses des hôtels au dernier moment. Est-ce que à Utopia 56, vous avez été concerné par cet événement-là la semaine dernière? Ou est-ce qu'en tous les cas, même si vous n'y étiez pas, est-ce que vous partagez vous-même ce sentiment que, bah, en se reposant sur vous pour qu'une aide soit apportée aux personnes sans-abri, dans cette période de crise sanitaire, la municipalité se dédouane en quelque sorte de ses responsabilités?
Oui, alors nous on y était. Je vais vous réexpliquer la situation. En fait, c'était un total de 130 personnes environ qui vivaient actuellement dans un gymnase et dans un centre aéré, qui donc ont été mis à l'abri par la mairie dans des hôtels, et le déménagement devait se faire lundi et mardi dernier, et clairement on avait dit aux familles « débrouillez-vous », alors que certains hôtels étaient plus de 30-40 bornes d'ici. Donc voilà, donc on a été sollicité pour faire le déménagement de ces familles-là, sans aucune protection bien entendu, et clairement on nous a laissé se débrouiller quoi. Donc oui, tout le monde s'est senti un peu abandonné, d'autant plus qu'on savait que les agents de la mairie avaient été placés en télétravail, et que donc pour beaucoup d'entre eux, le télétravail n'étant pas possible, ne font rien à la maison. Donc se dire qu'en fait, le poids de ce déménagement-là reposait sur des habitants, alors même que certains agents, que ce soit des agents de l'État ou des agents de la mairie, étaient disponibles, voilà, ça nous a posé question.
D'autant plus que, comme tu le disais, il y a des fois des militants Utopia 56 qui ont été, en tout cas, interpellés par les policiers parce qu'ils étaient dehors sans raison soi-disant valable. Donc c'est un risque pour les bénévoles.
Ah bah oui, clairement, ouais. Et pareil pour les gens qui sont à la rue, hein, de toute façon, nous, on s'est mis à produire un certain nombre d'attestations traduites en plusieurs langues pour pouvoir les distribuer, en fait, parce qu'eux n'ont pas moyen d'imprimer leurs propres attestations. Nous, à Utopia, on a réorienté nos actions cette semaine parce que toutes les assos de maraude avaient disparu et qu'aujourd'hui, en maraude, il n'y a plus que nous et le SAMU social. Donc, on a réorienté nos actions principalement sur les maraudes. Donc, on rencontre chaque soir 60-70 personnes dans la rue et on sait déjà, puisque maintenant, ils nous contactent directement quand ils ont un souci, on sait déjà qu'il y a eu au minimum 4 amendes à des sans-domicile qui ont été données, et qu'il y a eu une arrestation violente avec des propos racistes de la part des policiers. Quand on a essayé de se renseigner le soir même et qu'on a appelé la police pour savoir si la personne en question allait bien et si elle était bien placée en garde à vue, on nous a traités de Pékin. Et ensuite, le lendemain matin, on a conseillé à ce monsieur d'aller porter plainte contre la police. Police qui a dit qu'il ne pouvait pas porter plainte dans ce commissariat-là et qu'il fallait aller au commissariat de Sainte-Anne. Sauf qu'actuellement, le commissariat de Sainte-Anne est fermé. Donc on a quand même réussi à le renvoyer pour qu'il porte plainte. Et là, depuis 3 jours, on essaye de lui apporter tout le soutien qu'on peut.
La mairie a relogé donc 150 personnes à peu près. Il y en a beaucoup encore qui restent à la rue sans information, sans soutien quasiment des associations non plus, à part vous et le SAMU social. Combien ça représente de personnes à peu près ?
Nous, chaque soir, dans les rues, on croise 60-70 personnes. En plus de ça, je dirais qu'il y a des gens qui sont dans des petits squats dont on n'a pas la connaissance, mais qui se retrouvent dans des situations quand même bien précaires. À cela s'ajoutent donc les 2 chiffres des 2 squats d'exilés.
Et au niveau des personnes qui sont hébergées dans les structures d'urgence, est-ce que ces personnes-là ont accès à ces centres la journée aussi pour respecter les mesures de confinement, ou est-ce qu'ils sont renvoyés à la rue aussi pendant la journée ?
Ah bah alors justement, parmi nos équipes de bénévoles, il y a 4 sans-domicile fixe qui sont venus nous donner des coups de main pour faire du premier lien avec les gens qui restent à la rue. Ces 4 personnes-là sont en centre d'hébergement d'urgence. Et le lundi, quand on en a discuté avec eux, ils nous ont dit qu'ils ne savaient toujours pas s'ils pourraient rester aussi la journée. Le mardi matin, on a appris par l'un d'eux qu'ils étaient censés être remis à la rue le matin même et repris le soir à 18h. Clairement, on lui a conseillé de faire un sitting et c'est ce qu'il a fait. Ils ont tenu le sitting et depuis, les centres d'hébergement d'urgence de nuit sont aussi ouverts la journée.
Tu parlais tout à l'heure aussi des maraudes que vous organisez. Donc au-delà des masques, des gants, des attestations, vous fournissez aussi aux personnes tout ce que vous faisiez avant, donc de la nourriture, des produits d'hygiène, d'entretien, des duvets, des matelas. C'est toujours possible donc pour vous d'aller dans les rues de Rennes et puis d'apporter ça aux gens?
Alors pour l'instant, en maraude, on n'a jamais trop croisé les policiers. Donc on s'en sort plutôt bien, je pense. Et oui, on continue nos actions. on va commencer à réduire parce qu'on a bien bien équipé toutes les personnes qu'on rencontre. Donc on passe à une maraude tous les deux soirs. Et sur chaque maraude, on distribue une vingtaine de couvertures, on distribue donc des kits d'hygiène complets. On distribue aussi des croquettes, croquettes qui nous ont été fournies par l'association Gamelle Plaine, qui, elle, ne peut plus tenir ses maraudes, justement. Voilà, on arrive à s'organiser, en fait, avec toutes les associations qui ne tournent pas pour obtenir du matériel de partout, mais clairement, là, on commence à en manquer. Donc, on a lancé une cagnotte pour pouvoir faire des courses, parce que si, à l'habitude, on ne distribuait pas de nourriture, aujourd'hui, on est obligé de le faire, parce que plus personne ne le fait.
La mairie ne le fait pas parce qu'il me semble que Nathalie Appéré, justement, a tweeté que l'accueil du CCAS, du restaurant social et que la cuisine centrale fonctionnait pour fournir des repas aux associations de solidarité. C'est pas le cas ?
Alors, si c'est le cas, le seul souci, c'est que c'est un restaurant social, donc c'est-à-dire que ce sont des plats chauds, et ce restaurant est ouvert le midi seulement. Nous, on maraude la nuit. On maraude à partir de 19h le soir.
Et est-ce que tu sais aussi pourquoi les autres associations ne peuvent pas continuer les maraudes ? Est-ce que c'est parce que justement les bénévoles ont peur de recevoir des amendes ou parce qu'ils ont été complètement interdits d'action ?
Non, ils n'ont pas été interdits d'action. Je pense que c'est aussi pour des questions de sécurité sanitaire, voilà, de bénévoles qui présenteraient potentiellement des risques. Je sais que nous, par exemple, on a décidé de ne prendre sur le terrain que des bénévoles qui sont seuls confinés chez eux, qui n'ont pas d'enfants, qui ne présentent aucune pathologie particulière médicale et qui ne présentent pas de risque en cas de virus.
Vous avez lancé une cagnotte pour pouvoir faire des courses. Est-ce que vous recevez toujours aussi les collectes de produits de première nécessité en nature ou pour l'instant c'est mis en pause ?
Comme notre système de collecte reposait sur des lieux publics qui étaient ouverts, là aujourd'hui, forcément, on ne peut plus collecter grâce à ça. Cela dit, sur certains besoins très spécifiques, comme par exemple les couvertures, où là vraiment notre stock est quasiment à vide, on continue à recevoir les dons. Donc si jamais les gens vont faire les courses à proximité du Leclerc Saint-Grégoire, on peut nous déposer ça à côté de notre local. On a mis en place un système de bidons. Et sur demande, on fournit l'adresse de notre local.
Le collectif inter-organisation de soutien aux personnes exilées de Rennes qu'on a évoqué plus tôt appelle à la mise en place de distributions alimentaires organisées par les pouvoirs publics pour pallier justement le fait que les associations ne peuvent plus poursuivre leurs actions dans ce domaine. Est-ce que vous rejoignez cet appel en tant qu'association ?
Bien entendu. On a commencé à réfléchir à la question de toute façon dès que le confinement s'est annoncé. On pensait potentiellement que des actions seraient mises en place au niveau de l'État ou de la mairie. Tel n'a pas été le cas pour l'instant. Donc, entre la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, le Secours populaire et toutes les associations qui interviennent auprès des populations les plus précaires, on a commencé à réfléchir à une création de colis et de livraison à domicile. Pour ceux qui ont un domicile, bien entendu. Mais le problème de ce système, c'est encore et toujours que tout ça repose sur les soutiens et les militants pour la création de colis ou pour la livraison. Donc voilà, ça s'organise doucement.
Est-ce que vous avez besoin de monde, du coup, pour vous rejoindre, pour vous aider ? Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est compliqué à cause des conditions sanitaires ?
Alors, c'est très, très compliqué à cause des conditions sanitaires. Je ne sais pas comment les autres associations fonctionnent. Je crois que le Secours populaire et le SAMU social ont fait des appels à bénévoles parce que justement, on recherche des bénévoles qui ne présenteraient aucun risque. Nous, aujourd'hui, on ne recherche pas de bénévoles, on recherche plus du soutien, que ce soit en termes de communication ou voilà, de partage sur les réseaux, etc.
Ou de dons aussi, donc, j'imagine.
Ou de dons, ouais.